Le cinéma japonais, c'est actuellement trois films en salle dont on va parler. Bangkok Nights de Tomita, Mazinger Z Infinity d'après Gonagai et The Long Excuse de Miwa Nishikawa qui nous permettra de parler des films de Kinotayo puisque The Long Excuse était à Kinotayo cette année. Alors juste pour info, vous pouvez aussi aller voir We Are X, le documentaire sur Yoshiki de X Japan, mais personne autour de cette table malheureusement n'a pu le voir. Et Outrage Coda de Kitano, dont on parlait, qui est distribué maintenant en e-cinéma, sur la plateforme e-cinéma.com. Donc vous pouvez voir le film, du coup, sur votre télé, chez vous, ou sur votre ordinateur. Et on y reviendra, je pense, au prochain podcast. Voilà, le film, a priori, est plutôt bien. On a une critique très positive sur le site, donc on peut vous le conseiller. Et un autre film... Et personne n'a vu.
C'est Yannick.
C'est Stéphane Sarrazin qui a fait la critique en direct du Japon. Et le premier film dont on va parler ce soir, c'est Bangkok Nights de Tomita Katsuya. Gaël, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce long film fleuve de 3 heures ?
Donc c'est un long film fleuve de 3 heures. Et pourtant l'histoire est, l'histoire est assez simple. C'est un jeune japonais, enfin je dis un jeune japonais parce que je commence à me faire vieux, donc voilà, on va dire la trentaine, qui revient à Bangkok pour un séjour et qui rencontre en fait le personnage, on pourrait dire le personnage principal, qui est une prostituée. Et qui s'avère être en fait en gros un peu l'amour de sa vie. Et elle aussi est amoureuse de lui. Et on suit le parcours de ces deux individus, de cette jeune fille qui se prostitue dans un bordel. C'est un peu une maison. Et de ce japonais qui revient à Bangkok et qui.
Et alors, qu'en as-tu pensé ?
Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors donc j'avais vu Saoudade il y a quelques années et qui m'avait assez bluffé en fait. Donc Saoudade c'est évoquait la communauté, une communauté un peu particulière des Japonais qui venaient du Brésil. Enfin, en fait, voilà, au Brésil il y a une communauté japonaise et certains reviennent au Japon. Et parler de rap japonais et portugais, enfin avec brésilien, enfin du rap brésilien. Et donc, j'avais trouvé le film assez épatant. Donc, quand je sais que ça sortait en France, j'ai voulu voir ce dernier film. Et ça m'épate toujours autant. Il a une vision vraiment très particulière en fait des travailleurs de base, parce que effectivement le personnage principal au final c'est cette prostituée, mais il la définit pas comme prostituée, il la définit au final comme jeune femme qui a un travail, mais qui le travail c'est pas sa vie. Et donc il la filme au jour le jour, faire du shopping, passer ses vacances à la campagne là où elle est née, comme une jeune femme, comme n'importe quelle jeune femme en fait. Et cette façon de cette bienveillance vis-à-vis en fait des travailleurs des basses classes quoi. Au final, moi je suis assez touché par cette façon de voir. Et également sur son univers qui est très lyrique. Je trouve il y a quelque chose de vraiment très lyrique, autant dans Saudade que dans Bangkok Nights ou sur un petit sujet assez banal. Il va pas évoquer le côté glauque de la prostitution. Il va élargir ça, tout un pays, tout un territoire, et il va montrer la complexité de tous les personnages, de toutes les régions qu'il filme, et je suis assez hyper impressionné Je ne sais pas exactement ce qui fait. Je sais qu'à l'époque de Soledad, le cinéma, c'était pas forcément. Voilà, il n'avait pas forcément il se définissait pas forcément comme cinéaste, mais plutôt comme un travailleur lui-même, comme un travailleur itinérant. À l'époque, il était routier. J'ai pas trop suivi depuis. Mais en tout cas, c'est vraiment une figure très, très particulière et hyper attachante. Et comme il évoquait le rap dans Soledad, il y a aussi un groupe de rap, je crois qu'il vient du Laos, qui apparaît,
Tombo Tribe.
qui apparaît
Philippines.
dans Bangkok Nights. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le rap, donc je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, en plus, là, il est venu en France et il a organisé une sorte de match-up, j'en rappelle plus exactement où à Paris, entre différents groupes. Voilà, c'est un mec assez passionnant, quoi, et qui fait des films. Voilà, on est transporté, on voyage et on est bien, quoi.
Rien à rajouter, c'est parfait ce qu'il a dit.
Moi, je suis d'accord avec Gaël, mais enfin, je trouve que justement, comme Gaël le dit, il montre pas la vie de prostituée comme un truc qui subit glauque. Enfin, comme je pense, 90% des films le font en fait.
Juste, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que c'est assez intéressant sur le Japon qui est quand même le pays du Pinkuaiga et du roman parlant. On va peut-être en parler avec Sidejob. Mais du coup, il arrive à montrer une vie voilà, d'une travailleuse du sexe comme en tant que travailleuse, mais sans jamais montrer en fait de scène de prostitution. Il n'y a pas de scène voilà, de excitante
Il y en a
qui
une,
pourrait.
je crois,
Au début,
qui n'est
je
pas du
crois.
tout
Au
excitante.
début.
Avec le bar, justement, il y a un des clients qui veut absolument la voir comme pour
Hôtesse.
pouvoir l'utiliser, enfin clairement c'est ça, quoi. Elle refuse tout le temps, et il y a une fois où elle accepte, et effectivement le mec est un peu bizarre, qui lui propose de manger un peu sa merde.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, mais
Donc tu comprends
justement.
Qu'elle n'a pas très envie de.
Mais quand même, justement, il montre pas la prostitution comme une sorte de fatalité, mais justement comme un travail normal. Il s'amuse plus à filmer le corps des femmes comme des corps pleins de vie.
On est un peu malade, hein, pardon, ce soir.
comme
tourné en plein mois de décembre, enregistré en plein mois de décembre, forcément les podcasts vont tous, désolé.
Il s'amuse à montrer justement les corps de ces jeunes femmes comme des corps pleins de vie, et justement on les voit se pouvoir prendre des actions, prendre des décisions et tout. Elles subissent pas tant que ça leur vie, même elles se servent de la prostitution pour faire des arnaques en fait sur les clients, etc.
Qui marche pas très bien,
oui
je peux
oui
dire,
mais
mais
tu
ceci dit, enfin évidemment, il les montre pas du tout, il les montre comme évidemment des travailleurs, des travailleuses, travailleurs, travailleuses,
non,
on me spoil, mais c'est ça, en même temps c'est ça. Il la montre comme ça, c'est-à-dire que les gens qui sont qui possèdent un peu l'outil de production, c'est leur corps, quoi, et en même temps qui se font exploiter, qui sont complètement exploités. Et si pendant toute la durée du film, ils préfèrent insister sur le personnage principal comme un être humain avec sa richesse, à la fin il y a un monologue de cette jeune fille qui montre que il n'a pas montré tout un aspect de ce travail, mais elles sont toutes foutues, quoi.
Oui, mais justement il le montre pas, mais quand même il le suggère. Et justement, ce qui est intéressant et qui est très lyrique justement dans le cinéma de Tomita, c'est que il crée des scènes avec des ambiances qui te laissent imaginer ce qu'est en fait ce que pourrait être le pire de cette situation. Par exemple, il y a une scène ou quand elle est ou justement le fait que les deux personnages appartiennent à deux mondes différents et prennent un moment de chemin différent dans le film nous offre deux espèces de visions et une palette de personnages qu'on suit. Et justement, les personnages des prostituées, qui sont les amis de la prostituée, restent à Bangkok et des fois on les suit sans raison. Et on a une partie de ce que pourrait être la vie prosaïque en fait, des prostituées. Et alors, elles doivent attendre dans une chambre pendant une durée. En fait, elles ne savent même pas combien de temps elles doivent attendre et longtemps. Et ça m'a rappelé le cinéma. Justement, le cinéma thaïlandais, genre Penne Krathawang, des choses comme ça, qui justement joue sur ça et sur le temps pour suggérer le pire ou justement créer une espèce d'ambiance de malaise ou d'inconnu. Et ils jouent sur ça aussi quand ils arrivent dans le nord du Thaïlande, qui est justement une région qui est connue pour ses légendes, son histoire, etc. Et qui est là aussi la région de Apichatpong Virasethakul. Et il fait une scène à la Apichatpong Virasethakul, un moment où elle voit des fantômes. Un fantôme.
Des fantômes,
oui, plusieurs fantômes. À la presque oncle Bunmi dans la forêt pendant qu'elle est en scooter, etc. Et le film a comme ça des espèces de visions fantomatiques traversées par des moments et des trucs et qui rend l'expérience plus très agréable. En fait, on a l'impression de traverser une espèce de rêve. Ou souvenir de ce qu'aurait pu être leur histoire et qu'en fait, si on n'a pas la version glauque et tout, c'est parce que justement, c'est un espèce de rêve d'empilement de souvenirs et c'est ça qui est assez beau dans le film. C'est qu'il y a une mélancolie, il y a toujours une mélancolie sur les scènes qui arrivent, qui teintent le film depuis le début. Et il y avait un peu ça dans Saudage aussi.
D'ailleurs, enfin, Tomita est un fan de Virasethakul. Apparemment il a filmé dans la région mais sans vraiment le savoir à ce moment-là quoi. Et il a montré son film à Virasethakul et qui a beaucoup aimé. Il y a
cool.
Juste apparemment il y a une scène qui l'a choqué apparemment c'est la scène avec la prêtresse là qui commence à chanter qui est apparemment une très grande chanteuse que je connais pas du tout. Je préfère pas la nommer parce que je veux pas écouter son corps, voilà. Et apparemment cette scène posait problème d'un point de vue sociopolitique pour la Thaïlande c'est un peu énervé là-dessus quoi.
Il y a beaucoup de choses qui posent problème pour
l'instant. Mais voilà.
Et la France aussi.
Bah, justement, enfin.
Virasethakul, c'est un peu tendu pour lui, la Thaïlande,
en ce moment.
Ouais.
Ouais.
Oui, ouais. Pourquoi parce que. Il est parti l'année dernière, et là, il y est revenu, mais il fait profil bas pendant qu'il fait ses expos et tout, parce qu'il n'est pas bien vu, et qu'il y a un peu la répression policière, un peu beaucoup, et qu'ils peuvent discuter France, librement que sur Twitter en fait des choses comme ça
comme en France.
Non mais pas autant
nuit debout.
Alors là la transition va être difficile donc
j'ai une petite dernière anecdote aussi parce que j'ai vu le film la cinémathèque française, il y avait Tomita qui était là et
qui est à Paris d'ailleurs en ce moment,
il a fait son truc
il voulait venir mais bon
au podcast
l'année prochaine peut-être mais il y a un truc qui m'a assez amusé c'est vers la fin en fait il y a ce personnage de prostituée mais donc il y a son amoureux aussi qui décide de rester en Thaïlande et de s'acheter une arme. Et il va voir en fait un tatoueur réputé pour être aussi un vendeur d'armes sous le tapis. Et en fait, Tomita voulait donner le rôle à Ferrara, la belle Ferrara.
Ah, il aurait été très bien.
Ouais. Qu'il a rencontré à Toulouse avant de faire le film. Et donc il adore Ferrara et ça a été un peu le coup de foudre entre deux donc il lui a proposé de faire ce rôle-là et Ferrara l'a envoyé bouler en disant non, enfin ils ne voyaient pas du tout faire ça quoi. Donc il a dû trouver un type au dernier moment quoi.
Faire vendre des perceuses.
Voilà. Donc c'est
une référence à Driller Killer pour ceux qui l'ont pas vu
Je vois de ma petite. Non,
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 mais moi je l'ai vu.
Moi je l'ai vu aussi, il y a longtemps.
Très bien, bon bah donc Bangkok Nights de Tomita Katsuya est donc en salle depuis le 15 novembre. Vous pouvez encore le voir dans donc je crois qu'il joue au Luminor à Hôtel de Ville, au Reflet. Donc dépêchez-vous. Voilà,
il dure 3 heures, mais ça passe vite. Hein.
Et ça passe
comme un pied à voir.
On va donc passer à un autre film qui n'a absolument rien à voir, si ce n'est qu'il est aussi japonais. C'est Mazinger Z Infinity, donc qui est la suite de la franchise de Go Nagai. C'est juste sorti le 22 novembre, donc on a pris les films dans l'ordre. Justin, c'est quoi Mazinger Z?
Le concept, Mazinger Z.
Bonne chance. Alors, Mazinger Z, déjà, c'est une adaptation d'un manga de Go Nagai, donc auteur qu'on connaît en France justement pour Goldorak, hein, donc Grandizer, enfin UFO Grandizer, et donc c'est un manga qui date du début des années 70 et qui a connu un grand succès à partir du milieu des années 70 grâce à une première série animée donc du même titre Mazinger Z, qui a entraîné le carton de la série, donc qui a inventé un peu le concept du mecha, c'est-à-dire le mecha avec un pilote à l'intérieur, un mecha géant qui affronte des extraterrestres, des créatures et autres. Donc c'est un peu l'inventeur du concept, donc qui a remporté un grand succès et qui a été décliné. Il y a une suite Great Mazinger qui est sortie, ensuite une deuxième série. Et d'ailleurs, Goldorak, c'est le troisième volet, c'est une trilogie en fait, c'est le troisième volet d'une série, parce que le personnage de Alcor dans Goldorak, en fait, c'est Kabuto Koji, c'est le héros de Mazinger Z de base. D'ailleurs, en passant, c'est pour ça que ça n'avait pas marché au Japon, parce qu'ils ne supportaient pas de voir donc le héros de Mazinger Z en second couteau dans Goldorak, vu qu'il a un rôle secondaire. Et donc tout ça, c'est pour... Donc, et le film qui est sorti récemment, donc c'est pour fêter, je crois, le 40e anniversaire de la série. Donc on retrouve tous les personnages donc à l'âge adulte. Là, les années ont passé, c'est des personnages comme souvent dans les séries japonaises, adolescent, voilà, post-adolescent à l'époque de la série. Et donc là, c'est une sorte de conclusion à la série. On retrouve tous les personnages à l'âge adulte qui ont quitté leur fonction qu'ils avaient dans la première série. Donc on a des personnages qui sont devenus, qui travaillent pour l'armée. On a d'autres qui sont scientifiques, donc qui ont complètement évolué. Et donc le grand méchant de la série refait son réapparition, donc le docteur L. Et sans plus développer que ça, donc il y a un nouveau méca qui fait son apparition, qui est découvert dans les entrailles de la Terre, qui est encore plus surpuissant, normal. Et qui va être utilisé par le docteur L pour conquérir la Terre une nouvelle fois. Et donc voilà, toute une bataille qui s'enchuit, et puis avec une sorte de mélancolie, de nostalgie par rapport au temps qui passe au niveau des personnages, de leur évolution. Donc tout ça pourrait plus être très intéressant si on avait la connaissance de tout ce qui s'était passé auparavant, sauf que le problème c'est que Mazinger Z, donc la première série a quand même été diffusée en France, hein, pour les plus vieux d'entre nous, c'était passé dans les années 80 c'était passé dans les années 80 sur M6, c'était passé totalement inaperçu parce que ça arrivait après Goldorak, donc c'était un peu un syndrome inversé, donc ça paraissait pour nous une copine de Goldorak, alors que Goldorak au contraire c'était une déclinaison de Mazinger Z au Japon. Donc voilà, du coup ce qui se passe, c'est le film découle de de personnages qu'on connaît pas vraiment, d'événements qu'on connaît pas vraiment, de spin-off, de toute une série d'événements qu'on connaît pas vraiment. Donc, et en plus, il n'y a pas de...
C'est vraiment gênant quand on voit le film. Est-ce qu'on peut voir le film?
On peut voir le film sans le savoir, mais on sent quand même qu'on passe à côté quand on le voit.
Moi, personnellement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais Goldorak un peu comme tout le monde. Enfin, en tout cas, les gens de ma génération.
T'as vu Mazinger dans les années 80 sur M6 alors?
Goldorak.
C'était brièvement diffusé.
Non, mais voilà. Mais effectivement, s'il y avait pas, à l'époque, s'il n'y avait pas marqué Goldorak, je ne regardais pas. Quoi, tu vois. Donc c'est un peu le problème qui s'est posé pour la sortie de Mazinger, effectivement. Parce qu'il fallait reparler de Goldorak. Alors qu'en fait, voilà. Bon, t'as très bien expliqué la chose, mais c'est vrai que bon, moi je suis passé complètement à côté de Mazinger, donc moi c'était la première fois que je voyais ça. Et comme spectacle pur, moi, ça me convient très bien, quoi. Ensuite, effectivement, j'ai pas forcément tout compris à ce qui se passait devant mes yeux.
Après, c'est pas que de la faute des références, c'est le scénario qui est un petit peu
aussi... Autant dans le récit que visuellement, où il y a des choses, what the fuck, c'est drôle, mais c'est assez surprenant. Mais en tout cas, en pur film spectacle, moi j'ai eu mon compte, donc ça me suffisait, mais...
C'est juste dommage pour l'émotion du film, parce qu'on sent qu'il y a quand même un effort, il y a des personnages qui meurent. Donc si on a le passif de la franchise par rapport au destin de certains personnages, c'est supposé mieux fonctionner sur nous que là où... Bon, il y a une petite intro au début où on représente voir tous les personnages où ils en sont aujourd'hui. Mais bon, vu que c'est la première fois qu'on les voit, nous, on n'a pas ce côté nostalgique ou cette curiosité de voir ce qu'ils sont devenus parce qu'on ne savait pas ce qu'ils étaient avant.
Vraiment, ce qui m'a surpris, c'est ces femmes-là avec des seins mitrailleurs. Enfin, c'est quoi ce...
Oui, ça sort de nulle part en plus.
Quelle idée, quoi. Mais apparemment, c'est aussi parce que Gonagai est hyper...
Oui, il y a que Théoné ou des choses comme ça.
Qui est visiblement aussi un des inventeurs de Le Chi, c'est ça. Enfin, je ne veux pas dire de conneries, hein, mais qui a fait quelques mangas assez érotiques. C'est vrai que pour moi, ça sortait
d'une barrière. Après, ça s'était rattaché aussi parce que tu as des personnages secondaires un peu comiques... Voilà, avec leur robot un petit peu brinque-ballon, c'est les personnages un peu... C'était les cautions un peu comiques dans la série originelle. Donc là, c'est pour avoir un moment décalé. En plus, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, vu que c'est un moment en plus assez tendu dramatiquement. Donc ça fait retomber un peu les choses.
Kefren, pour conclure sur Mazinger Z.
Mais en fait, le problème du film, c'est que justement, c'est un film pour les 40 ans, donc c'est un film... Pour les gens qui savent que ça existe depuis 40 ans, et non mais vraiment parce que le film en fait donne une fin finale, genre il te dit...
Oui c'est une épilogue à la série.
Ça c'est, après ça, c'est fini les 40 ans de trucs qu'on avait, c'est terminé, il n'y a plus de...
On passe à Goldorak.
Voilà, ça c'est fini. Et genre, et en fait, toi en tant que français, qui ne regarde pas trop M6 dans les années 80, ou même qui était peut-être même pas né dans les années 80.
Il y a des gens qui sont pas nés dans les années 80.
Ouais, ça arrive, hein, ça.
Aïe.
et tu regardes le truc et tu te dis très bien. Et il y a genre, je crois, le film commence avec 35 minutes d'exposition et de dialogue et des choses comme ça, sur des retrouvailles, des choses, des personnages, ben, en fait, et qui font référence à des choses.
Qu'on ne connaît pas.
Que tu ne sais pas.
Oui, là, on revient au débat qu'on a eu.
Non, mais après, ça devient problématique.
Quel est le public qui est visé?
Non, mais parce que
là... Ce que tu disais, c'était qu'en tant que... Voilà, le cinéma.
Oui, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que, justement, il y a un échec en tant que film, comme unicité artistique, machin, parce que, justement, on te demande de croire à quelque chose qui existe de 40 ans et même de comprendre la grammaire et le fonctionnement des images, justement, comme Gaël, par exemple, il est choqué qu'il y ait des vitrailles qui sortent de ses tours. On te demande d'accepter tout ça.
Je suis pas choqué, mais je
me... Non, mais ça fait genre. On te demande d'accepter tout ça.
C'est sordou, quoi.
Alors que...
Mais après, j'ai compris.
Et alors que, par exemple, pour un français lambda, c'est la première fois que tu le vois. On te demande. C'est genre, c'est indigeste en fait comme
Robot
film.
Geisha. Robot Geisha.
Oui.
S'il vous plaît.
Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça, le film, voilà, au niveau du sérieux, c'est quand même assez premier degré jusque-là. Tout d'un coup, il y a ce moment-là qui arrive où ça devient un peu plus fantaisiste et on comprend pas trop où nous cessons. Alors que peut-être ça avec la référence. Hein,
tout simplement.
Non, mais c'est le film en fait est assez indigeste. Mais par contre, visuellement. Ouais. Il y a un truc assez intéressant qui se passe, c'est que les scènes 3D sont plus intéressantes au niveau de la mise en scène que les scènes 2D.
Les scènes, d'accord.
Oui, les scènes en 3D sont plus intéressantes que les scènes 2D.
Ce qui est rare.
Oui, ce qui est rare dans l'animation. C'est assez notable.
Dans l'animation japonaise.
Voilà, dans l'animation japonaise.
Et ceci, enfin, moi, ce que j'ai apprécié en tant que film, tout simplement, c'est ce... Enfin, il y a cette volonté de rester visuellement, enfin dans le dessin, dans les années 70, quoi. Enfin, c'est
oui, vraiment, mais avec
finalement, des
en perdant des toutes les contraintes des années 70. C'est-à-dire là, on a des combats à la Goldorak, mais avec une dynamique, une fluidité.
Oui. Là-dessus, oui.
Et avec, en gardant tous les codes. Voilà,
parce que ça reste un gros film. Enfin, voilà. Mais je trouvais ça très intéressant de tenter de relever avec l'esthétique des années 70, enfin en dessin animé.
Oui, parce qu'au niveau des...
Je ne les mets pas au même niveau, mais c'est la première fois où j'ai vu le Géant de Fer, ça m'avait fait un peu le même effet, même si je ne les mets pas au même niveau dans le film. Cette volonté de reprendre un dessin rétro.
Ouais.
Et
parce que c'était
ça, je
non, mais si, ça fonctionne bien, parce qu'il y a le côté un peu régressif, voilà, des Goldorak, où voilà, on crie l'arme qu'on va déclencher, il y a ce côté énorme, et tout en ayant aussi le côté shonen, l'ancienne, où on crie l'arme, alors, les multiples armes.
Une question, est-ce que vous savez si ça marche ou pas?
J'ai pas posé la question.
Mais ils l'ont pas mal vendu sur le nom de Goldorak, c'est le problème.
Mais Arnaud Ducré.
Et Arnaud Ducré, ouais.
Sinon...
Mais du coup, il y a eu une grosse campagne de pubs,
C'est sorti enfin en France, apparemment aussi en Italie, je crois.
Ouais, mais en Italie, par contre, Mazinger Z a marché. Ils
connaissent.
C'est un peu plus logique qu'il ne...
Mais c'est pas encore sorti au Japon. Devrait sortir...
Non, et c'est pour ça qu'on a interdit de communiquer. Justement, quand on l'avait en projet de presse, on nous avait interdit de communiquer sur Twitter et des choses comme ça pour pas que les Japonais aient des infos sur le film. Bon, mais je me dis que c'est con parce que le film est toujours pas sorti au Japon et que n'importe qui peut
très bien nous écouter. Exactement.
Et ce qu'ils font d'ailleurs.
En tout cas, c'est plus logique que ça sorte en Italie où ils ont Mazinger Z avant que nous on l'ait, parce qu'on sait pas à quel public ça s'adresse.
Il y a eu un film italien aussi qui faisait référence à Mazinger.
Gigrobot, de Gonaga.
J'ai toujours pas vu.
Enfin, je dis que c'est encore un autre perso.
Oui, bien sûr, mais c'est.
Mais justement, les Italiens, ils connaissent tout ça grâce à Berlusconi, c'est la seule chose de bien.
Merci Silvio.
Merci.
Non, mais c'est ce que je veux dire. Non, je veux conclure en disant que...
Évangélion, c'est mieux.
Non, c'est pas ça. Oui, mais non, ce que je veux conclure, c'est que pour les amateurs du storytelling et compagnie, tout ça, machin, le film, c'est irregardable. Mais moi, en tant que genre pur esthète, en fait, il y a des trucs de ouf.
Oui, visuellement, franchement, les scènes de combat, les 30 dernières minutes,
sont spectacle. Très efficaces. Moi, j'ai mon compte, quoi. Mais évidemment, j'ai complètement largué sur plein de choses, quoi. Mais en tant que pur spectacle, j'ai mon compte.
Ouais, les bourrins, allez.
Donc, Mazinger Z Infinity, d'après Gonaga, est toujours en salle. Il est sorti le 22 novembre. Nous allons maintenant parler de The Long Excuse de Miwa Nishikawa. Qui est sorti le 29 novembre. Alors, Elias, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Et je vais juste dire, avant, de toute façon, éteignez le podcast et allez le voir très rapidement.
Je suis d'accord.
De pas être en salle très très longtemps, et pourtant, c'est un excellent film.
C'est vrai, c'est très bien.
Ce Long Excuse, c'est l'histoire de deux couples. En fait, un couple qui est fait par un grand écrivain, enfin du moins un écrivain qui est assez imbu de lui-même, qui du coup en fait dans ça délaisse beaucoup sa femme, qui la trompe, etc. Et à côté de ça, un couple par un mec plutôt rude, c'est un espèce de routier, etc., qui pour le coup aime énormément sa femme. Et en fait, les deux femmes sont amies et vont toutes les deux, au début du film, c'est pas un spoil, mourir dans un accident de bus qui est causé par le mauvais temps, etc. Et du coup, par ça, en fait, par le deuil et par le sentiment du coup de sentir coupable par rapport à sa femme et à ce qu'il a fait, parce que en fait, quand sa femme mourait, il était avec son amante. Du coup, l'écrivain va se sentir extrêmement coupable et va tenter, du coup, de remplacer, entre guillemets, un peu la femme du routier, qui lui est très affectée. Il va, du coup, vraiment entrer dans la famille du routier et redécouvrir un peu l'idée de vie de famille. Redécouvrir, du coup, les enfants qui va vraiment se lier d'amitié extrêmement proche, le routier qui va aussi se lier d'amitié, etc. Et du coup, va, donc, dans une espèce de tentative de reconstruction, de fusion des familles un petit peu, en fait, retrouver dans une nouvelle famille et du coup essayer de se changer lui pour le meilleur. Donc, C'est un excellent film, je trouve, voilà. Miya Nishikawa, elle a été a priori assistante réelle de Kurosawa pendant... De Kurosawa, de Koreeda.
De Koreeda, oui.
N'importe quoi. Pendant assez longtemps, et ça se voit vraiment, le film est vraiment...
D'ailleurs, entre parenthèses, c'est elle qui a fait le making-of de Après la tempête, qu'on peut voir sur le DVD et le Blu-ray d'Après la tempête de Koreeda qui vient de sortir.
Très bon film.
Et d'ailleurs, au passage, je crois, si on le voit, on peut le lire dans l'interview sur le site Istasia, la même directeur de casting... Bon,
oui, oui.
Pour les enfants aussi, pour le choix de casting, donc parce qu'il y a
les enfants.
Alors ouais, en fait ça c'est un excellent film, moi que enfin
si je me trompe pas
alors en fait elle voulait depuis très longtemps travailler avec le directeur de la photo de Koreeda et du coup elle réfléchissait, donc c'est son cinquième film, à un sujet qui pourrait coller en fait au style du directeur de la photo. Et c'est pour ça effectivement qu'elle a aussi fait un film avec des enfants, ce qu'elle se refusait à faire depuis ses cinq premiers films. Et donc c'est de là que vient l'adéquation et le fait qu'elle ait choisi une thématique qui est aussi très proche du cinéma de Koreeda.
C'est ça, c'est un très bon feel-good movie en fait. C'est qu'au final c'est un film, malgré le thème, le début un peu négatif, qui est assez positif. C'est-à-dire que c'est un film très agréable, vraiment t'es plutôt heureux pour le personnage. C'est un film qui est très agréable à regarder, qui est très propre, qui est très joli, qui est très lumineux, et t'en sors vraiment extrêmement content. Après, voilà, je suis extrêmement curieux de voir les autres films de la Réal, parce qu'elle est extrêmement bonne, mais c'est vrai que c'est extrêmement, voire parfois un peu trop, influencé par Koreeda. Au final, ça sort pas vraiment de Koreeda.
Je trouve qu'on y pense, mais...
On y pense beaucoup, quand même.
On y pense surtout en termes de rythme, parce que ça m'a beaucoup rappelé Notre Petite Sœur, où voilà, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de rebondissement trop poussé, qui se ressent trop dans la narration. Ça prend son temps pour voir l'évolution des personnages, le quotidien, la progression. Bah après, je trouve qu'elle a quand même un ton à elle.
Moi, concrètement, je dis ça juste pour donner un petit point négatif, parce que je sais que tout le monde aime beaucoup le film, il faut toujours un peu limiter.
Non, après, ça peut être une porte d'entrée.
C'est un très bon film. Le rapport avec Koreeda.
C'est pas un décalque que du tout.
Non, c'est pas un décalque, c'est inspiré, très inspiré.
Non, non, justement, avec toutes ces personnes qui bossent avec Koreeda, elle-même a bossé avec Koreeda. Moi, j'ai pas vu le film, mais est-ce que c'est pas trop influencé par Koreeda ?
Très influencé, on voit qu'elle a un ton qui est parfois un peu plus corrosif que Koreeda, un tout petit peu plus à certains moments, j'ai l'impression. Notamment dans le personnage.
Plus corrosif que Nobody Knows ?
Non.
Pas sur les enfants, mais en
fait. Pas sur les enfants, mais sur le personnage principal, en fait.
Par exemple, c'est vrai qu'on compare beaucoup au dernier film de Koreeda après la tempête, parce que c'est un personnage d'écrivain.
C'est ça.
Dans les deux films. Et c'est vrai que Koreeda est beaucoup plus tendre avec le personnage masculin que la réalisatrice et avec le personnage
honnêtement
masculin au début du film. Mais du coup, non, c'est pas du tout parce que c'est un homme, ou enfin voilà, une question de genre. Parce que c'est aussi le récit d'un rachat et d'une rédemption, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, il va retrouver le sens de sa vie, le sens de l'écriture et le sens de l'art au contact des enfants qui représentent la vie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Koreeda, le fait que la vie est amenée par les enfants. Et là, c'est vraiment les deux gamins qui vont amener dans le film commence comme une tragédie, voilà, un drame un peu intimiste, un peu lourd, avec un personnage de... un peu un salopard qui perd sa femme, qu'on n'a pas grand chose à faire, et finalement il va retrouver le sens de sa vie, le sens de l'écriture, parce que la vie va entrer dans le film avec deux enfants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le premier quart du film est tourné quasiment en plan fixe, avec des couleurs très neutres, et finalement c'est quand les enfants entrent dans le cadre que finalement la caméra les suit, on est en décor en couleur vraiment très très naturelle, et qu'il y a ça, il y a la vie qui rentre dans le film, et que le personnage va retrouver comme ça une raison d'exister.
Donc c'est le premier film de cette réalisation.
Cinquième film.
Alors c'est son cinquième film.
Non mais j'ai pas fini ma phrase. Oh, hey, qui a été distribué en France.
Oui.
Mais moi je l'ai pas vu, donc il y a encore moins les quatre précédents. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a vu les autres films ?
Non, mais c'est ce que disait Elias, et c'est vrai que ça peut être très
horrible
intéressant de voir ces quatre premiers films qui a priori ne ressemblent pas à du Koreeda.
Ils sont pas disponibles, ils n'ont pas été vraiment
pour l'instant, tu peux pas les voir. Peut-être
sur le
cinéma un jour.
Sur le cinéma, ouais.
Il y a Vistas. Voilà.
Si vous nous écoutez à cinéma, sortez.
Ou plus vraisemblablement, je pense à des plateformes comme Hotbuster, par exemple, qui sont des partenaires, mais qui peut prendre ce type de film. Mais moi, je suis aussi très curieux.
Mais enfin, voilà.
Non, Pirate B, à Vistas, voilà.
On peut les trouver.
On peut.
Je veux dire, dans le genre.
Voilà. Non, mais j'ai. Autre chose.
Alors, parfois, quand je dis, enfin, quand je veux introduire des gens qui connaissent très peu le cinéma asiatique au cinéma japonais, je leur dis qu'il y a un peu deux genres. Il y a le genre Minike et le genre Kawase Koreeda. Voilà. Et dans le genre.
Kawase Koreeda, pour moi, c'est pas la même chose.
Non, mais j'ai dit, c'est pour extrêmement Kawase, mettre en très gros plan pour les gens qui ne connaissent pas du tout.
Kawase, c'est mieux.
Et dans le genre cinéma japonais lumineux, drame assez agréable, assez, assez positif, très mignon avec des enfants, etc. C'est un très bon film de ce genre-là, voilà, c'est un genre,
faut c'est dire... c'est pas que mignon, hein.
Enfin, oui, bien sûr, je veux dire, c'est un genre à part entière maintenant, un peu le cinéma lumineux avec les enfants, c'est japonais. Et dans ce genre-là...
Koreeda, enfin, japonais, enfant, c'est Koreeda.
Dans ce genre-là, je trouve que c'est un excellent film, dans le genre.
Quand on évoque Nobody Knows, par exemple, les enfants chez Koreeda ne sont pas forcément lumineux, et non pas le
caractère qui puisse... Après, ça peut être une bonne porte d'entrée en évoquant Koreeda pour aller voir ce film, mais c'est... C'est pas un décalque loin
de là.
D'accord. Si vous aimez Koreeda, je pense que.
Oui, c'est voilà, c'est ça.
Voir,
c'est ça, c'est pas un décalque, c'est quand même très proche.
En haut,
Allez le voir maintenant, là. Arrêtez d'écouter le podcast et allez le voir. même Bangkok Nights risque de rester un peu plus longtemps.
Oui,
parce
je pense
justement,
que
il y a des salles très cinéphiles qui le soutiennent.
Comment vous êtes encore chez vous?
Non, mais ils attendent toujours le mercredi pour sortir des films, enfin, pour injecter des films.
Tout à fait.
Donc j'ai encore le temps de...
Et du coup, The Long Excuse était présenté à la 12e édition du Festival du cinéma japonais contemporain de Kinotayo, dont nous allons maintenant évoquer les autres films.